Que le nom du Seigneur soit béni. Nous lisons Proverbe 11 au verset 2. Proverbe 11, verset 2. Et la partie qui nous intéresse, c'est la première partie. Le verset est en deux parties. Et c'est la première partie du verset 2. Proverbe 11, verset 2. Proverbe 11, verset 2. Nous lisons, « Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. » Et dans d'autres versions, c'est écrit, « Quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris. » Le thème de notre partage de ce matin, c'est l'orgueil, deux points, son fonctionnement. En réalité, comme ce passage dit, « Quand vient », c'est-à-dire que l'orgueil ne prévient pas à quel moment il arrive, mais il se manifeste. On voit ce qu'il produit. Ici, on nous dit quand il arrive, quand il est là, quand il se retrouve dans l'homme, eh ben, il produit l'ignominie, il produit le mépris. C'est-à-dire l'ignominie, c'est-à-dire que des actes qui sont, comment dire, abominables, des actes qui sont reconnus par tous comme étant graves. Mais quand l'orgueil est là, l'orgueil te fait prendre des positions. On se dit, mais qu'est-ce qui arrive à cet homme-là? Pour qui se prend-il? Mais le passage nous dit, quand vient l'orgueil, quand l'orgueil te surprend, tu fais et tu commets des actes graves. L'orgueil, c'est un péché comme tous les autres, mais il a une particularité. Bien sûr, la Bible dit que Dieu est contre tout péché, que ce soit le mensonge, le vol, la colère, la haine, les calomnies, les médisances, toutes ces choses. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais la particularité de l'orgueil, c'est quoi? C'est que l'orgueil étant lui-même péché, il soutient aussi les autres péchés. Ce qui fait que une personne, par exemple, qui se met en colère, pourquoi elle se met en colère? Elle est contrariée du fait qu'une situation lui résiste. Pourquoi on se met en colère? Parce qu'une situation ne se passe pas comme j'aurais voulu que ça soit. Ou un humain me résiste, me tient tête. Alors pour me faire entendre, eh ben, je manifeste la colère. Mais ce qui est derrière cette colère-là, c'est l'orgueil qui va te dire, mais attends, ne te laisse pas faire. Tu entends comment il te parle. Et là, tu te dis, ben, tu vas savoir de quel bois je me chauffe. En fait, l'orgueil est derrière cela pour te pousser, pour te dire, mais non, mais vas-y. Tape, gifle. L'orgueil est derrière cela. Quelqu'un peut manifester de la jalousie, penser que son problème c'est la jalousie, mais en réalité, la jalousie est peut-être soutenue par le fait que comment moi, qui suis moi, avec mon bagage intellectuel, avec tout ce que je suis, je manque ce que l'autre a. Ben, c'est pas normal. C'est moi qui devais être à cette place-là. C'est ça que produit l'orgueil. L'orgueil est derrière cela. Il y a des gens, on va prier pour le pardon. Il dit, mais pasteur, je n'arrive pas à pardonner, je n'arrive pas. On va prier aujourd'hui. On va prier demain. On va prier après-demain. On va combattre le pardon. Mais le Seigneur peut révéler aussi, en réalité, le vrai problème, c'est l'orgueil. Il y a des gens qui disent, je n'arrive pas à pardonner parce que je ne comprends pas comment moi j'ai été naïf. De telle ou telle manière. Même si tu aimerais pardonner, mais il y a la chair qui te dit, mais attends. Comme je parle avec une personne qui me dit, ah non, 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 il y a des choses que mon mari, que je peux tolérer, mais il y a une chose que je ne peux pas tolérer. Donc, quoi qu'il arrive, et j'essaie de discuter, c'est pas une chrétienne, c'est une païenne. Et j'essaie de creuser. Elle me dit, oui, mais je prenais des décisions simplement par fierté, parce que tu te rends compte. La honte que j'aurais. Mais c'est ça l'orgueil. C'est-à-dire que la personne peut pardonner, mais quand vient la voix qui te dit, mais attends, mais regarde, mais tu passes pour la risée de tout le monde, mais il n'y a que toi qui n'es pas au courant, mais l'information court les rues, que ça produit? Ah ben, ça produit l'orgueil. Tu reviens encore sur ta position. Bien-aimé, c'est ça que produit l'orgueil. Alors l'objectif de ce matin, moi le premier, c'est de nous mettre devant le Seigneur. Dire au Seigneur, Seigneur, nous refusons l'orgueil. Pourquoi? On va lire des passages. 1 Pierre 5:5, Jacques 4:6 nous dit clairement, Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux humbles. Alors la question, quand je méditais, je me dis, mais comment Dieu peut résister à un humain? Quel humain peut résister à Dieu? Quel humain? Personne ne peut résister à Dieu. Personne. Mais l'orgueil qui est dans l'homme peut faire que l'homme, malgré lui, résiste à Dieu sans savoir que c'est l'orgueil. Il pense que c'est lui. Il pense que c'est... Non, moi je vois les choses comme ça. Moi je comprends la Bible comme ça. Moi je lis comme ça. Et la Bible nous dit Dieu résiste. Donc Dieu s'oppose à l'orgueil. Parce que finalement, on connaît le péché originel. C'est cela qui a produit la chute. Mais avant de lire ça, nous lisons toujours dans Proverbes, verset 16. Proverbes 16, verset 18. Proverbes 16, verset 18, la Bible nous dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Bien-aimés, c'est ça. Ce sont des lois spirituelles. Que nous le voulions ou non, Dieu a établi les choses. Il dit « L'orgueil précède la chute. » Quand tu penses que tu es arrivé, quand tu penses que moi, c'est comme si, c'est comme ça, c'est... En réalité, tu es en train de chuter. Tu es en train de tomber. Tu es en train de tomber en réalité. C'est ce que le Seigneur dit. L'orgueil précède la chute. Qu'est-ce que ça veut dire l'orgueil précède la chute? C'est-à-dire que, poussé par l'orgueil, tu vas détruire les positions que tu vas prendre. Les orientations que tu vas prendre vont produire le chaos autour de toi. L'égoïsme, comme on a dit tout à l'heure, tous les péchés sont soutenus par l'orgueil. Et en réalité, l'orgueil, c'est quoi? C'est la volonté d'être soi-même Dieu, d'être comme Dieu. C'est de là que découle tout. L'égoïsme, c'est moi. D'abord moi. Les autres, on verra après. C'est-à-dire que je peux être père de famille, mais puisque je veux mon plaisir à moi, prendre des risques, être infidèle, mais les conséquences, on verra après. C'est moi. Et vice-versa, je peux être une femme par orgueil, parce que je me sens humilié, parce que j'estime que j'ai été rabaissé, prendre des positions, dire bon, je pars, je claque tout. Par orgueil. J'ai témoigné une fois, on avait... lorsque je travaillais à Évreux, j'avais une collègue qui venait au travail, qui pleurait, secrétaire. En plus, le bureau est tellement bien visible par tout le monde. Une porte en vitre. Mais elle venait tout le temps, elle pleurait. On ne comprenait pas ce qui se passait. Alors on pose la question. C'est un collègue qui me raconte ce qui se passe. Donc cette personne était... mariée avec un mari, et tous les jours elle disait, bah oui, mon mari, il échoue, il fait tout. Il fait la vaisselle, il passe l'aspirateur, il s'occupe du linge, il est, entre guillemets, l'homme presque parfait. Bon, je ne sais pas s'il a Jésus, mais en tout cas, il fait tout à la maison. Et finalement, ça ne convenait pas parce que, bon, c'était pas ce qu'elle voulait, c'est pas ce qu'elle attendait. Mais la personne décide de partir. Maintenant, elle vient au travail, le collègue, un collègue qui rentre dans le bureau, qui voit pleurer, bon, lui, il manque de tact, il dit, ah ben voilà, pourquoi tu pleures maintenant? C'est toi qui as décidé de partir. Donc, arrête de pleurer, il faut savoir ce que tu veux. Bon, c'était un peu dur ce que la personne disait, mais voilà comment l'orgueil sur un coup de tête, excusez-moi l'expression, va t'amener à prendre des positions, et ensuite, tu pleures. Mais maintenant, tu as la possibilité de revenir. Tu as la possibilité de t'humilier, de revenir. Mais l'orgueil va te dire, bah attends, Mais tu es parti, tu ne vas pas revenir. Mais voyons. Garde-moi ça. Garde-moi ta fierté. Bien-aimé, l'orgueil, c'est un ennemi de Dieu. C'est l'ennemi de Dieu. Lisons Ésaïe 14. Ésaïe 14. Ésaïe 14, à partir du verset 12. Ésaïe 14, à partir du verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je leverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Amen. Ici, on nous parle du roi de Babylone. Mais c'est un passage avec Ézéchiel 28 qui parle aussi de ce qui s'est passé, qui parle en réalité du diable. L'orgueil qu'il a pu manifester, la gloire qu'il avait auprès de Dieu, eh bien, il s'est dit, ben, je serai aussi comme Dieu. On lit, on voit tout ce qu'il dit. Hein. J'élèverai mon trône, je m'assiérai, je monterai au sommet, je serai semblable. C'est bien aimé, c'est ça l'orgueil. Mais comme on a dit dans le premier passage, Proverbe 11, 2, quand vient l'orgueil, vient la ruine, vient l'ignominie, vient le mépris, vient le péché, vient la destruction. C'est ça, bien-aimé. Et là, on nous parle du diable qui est de Satan, de Lucifer, pardon, qui était dans la gloire. Voyant que Dieu seul est adoré, il se dit, mais finalement, ce que Dieu fait, ben moi aussi, je peux en bénéficier. Pourquoi seul Dieu va être adoré de la sorte? Moi aussi, je peux être adoré. Je peux être aussi glorifié. Bien-aimé, c'est ça l'orgueil. La volonté d'être semblable à Dieu. Mais bien sûr, comme on a dit tout à l'heure, personne ne dira, moi, je veux être comme Dieu. Personne ne dira, moi, je vais ressembler à Dieu. En tout cas, celui qui le dit, il est vraiment courageux, mais il n'y en a pas beaucoup qui le disent. Mais dans les actes de tous les jours, nous manifestons de l'orgueil. Nous manifestons de l'orgueil. Pour se repentir, il faut l'humilité. Mais l'orgueil va te dire, attends, hier tu t'es repenti. Mais regarde-toi, tu es chrétien, tu passes devant, tu chantes. Mais qu'est-ce que les autres vont penser? Mais est-ce que qui te jugera? Ce sont les autres ou c'est Dieu? Mais l'orgueil fera quoi? Que tu fasses bonne figure. Que tu fasses bonne figure. Donc c'est-à-dire que l'orgueil va te pousser à faire semblant, connaissant les conséquences bien évidemment, parce que quand quelqu'un fait semblant, il sait que c'est faux ce qu'il fait. Le mensonge, c'est l'orgueil. Le but du mensonge, c'est quoi? C'est de tirer profit de ce qu'on dit ou de ce qu'on fait qui n'est pas vrai. C'est-à-dire, on veut garder une bonne image, qu'on dise, ah oui, lui, il est sérieux, lui, il est correct, lui, il est... Mais c'est juste une apparence. C'est ça le mensonge. Mais c'est soutenu par quoi? Par l'orgueil, parce que l'orgueil te dira, mais non, mais attends, il ne faudrait pas que les gens te trouvent en défaut. C'est toi qui écris la loi, on se rappelle, hein, les Cahuzac, les tous, aujourd'hui c'est Raymond Barre. Voilà, donc, mais c'est l'hypocrisie, parce qu'on sait que tous... Aujourd'hui, c'est difficile parce qu'il y a Mediapart et les autres. Mais on sait que tous, à l'époque, tous, ils sont corrompus. Mais c'est des gens avec un discours tellement pieux, avec une tenue, avec... Mais en réalité, l'orgueil te dit, non, mais tu es déjà monté trop haut, tu ne peux plus redescendre là. Parce que si tu redescends, mais tu te rends compte. Non seulement tu perds tout, mais en plus, tu vas faire perdre à tous les autres parce que ta situation fera jurisprudence. C'est-à-dire que à partir de ta situation, on va regarder les autres aussi. Le mensonge, c'est l'orgueil. Il y a des gens qui vont s'inventer des vies. Comme on dit en français, il va se présenter plus beau qu'il ne l'est. Ah, vous savez, moi j'ai fait ci, mais moi j'ai fait ça, mais moi je roule en telle voiture, mais moi je... Ben oui, sur le coup, ça produit de la satisfaction, les gens vont te respecter sur le coup. Mais c'est ça l'orgueil. Mais pendant que tu mens comme ça, viendra une situation où les gens vont dire, ah ben monsieur, c'est toi qui roules en Ferrari. Donc là, on a besoin d'une situation, là, qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est là maintenant que tu seras confondu par ton mensonge. Mais l'orgueil voudrait que tu passes pour quelqu'un de grand, de fort, de respecté. C'est ça que produit l'orgueil, bien-aimé. Et là, on nous parle de Lucifer qui avait toute cette gloire, qui se disait, mais je vais être comme Dieu finalement. C'est ça la conclusion. Je vais être semblable au Très-Haut. Et ce qui est arrivé dans le jardin d'Éden, il vient voir Ève pour lui dire, mais est-ce que tu es sûr que Dieu a dit que si vous mangez le fruit de cet arbre, vous allez mourir? Es-tu sûr de cela? Es-tu certaine? Et là, Ève tombe dans le piège du diable, dans le doute. Il dit, regarde comment c'est beau. Mais en plus, non seulement c'est beau, mais si tu manges, donc tu vas te réjouir parce que c'est beau et c'est bon. Parce qu'on dit, ils ont regardé, ils ont vu que c'était beau, c'était bon à manger. Mais en plus, il fait une promesse. Il dit, ça ne t'arrête pas là. Tu vas être comme Dieu. Bien-aimé, c'est ça l'orgueil. Et quand quelqu'un est comme Dieu, quand quelqu'un pense être Dieu, ben, qu'est-ce que tu vas lui dire pour le changer? Là, c'est maintenant entre lui et Dieu. Quand quelqu'un est comme Dieu, mais comme Dieu est le seul vrai Dieu, il va se révéler. On se rappelle, pour ceux qui connaissent l'histoire, dans Daniel 5, le roi, le fils de Nabuchodonosor, le roi de Babylone, Belshazzar, c'était un grand roi qui a succédé à son père, Nabuchodonosor. Et dans Daniel 5, on nous dit que tout ce que son père avait pris à Jérusalem, toutes les coupes d'or qui étaient réservées à l'adoration de Dieu, son père avait pris tout ça. Il a ramené ça dans son palais. Et son fils prend le pouvoir, et bien il se réjouit avec ça, puisqu'il est devenu Dieu. On nous dit qu'avec ses concubines, il faisait un festin, il se réjouissait. Mais qu'est-ce qui se passe? On nous dit que pendant qu'il se réjouit, il voit une main qui apparaît dans le vide. Une main qui apparaît pour écrire. On nous dit que la couleur de Belshazzar a changé. Les ceintures, vous savez, les rois, ils avaient des apparats. Je pense qu'il a perdu 15 kilos parce qu'on nous dit que les ceintures ne tenaient plus, elles sont tombées. Tu t'imagines, tu fêtes avec des gens. Tu vois une main qui vient écrire là sur le mur. Une main qui vient du vide. Et qu'est-ce que cette main a écrit? Parce que justement, quand il voit ça, il est troublé. Il dit, faites venir les savants, les devins du royaume. Pour me dire ce qui est écrit, la personne ne sait. La reine lui dit, je connais un homme que Dieu utilise qui pourra interpréter ce qui est écrit sur le mur. Et là, on appelle Daniel. Daniel vient lui dire, écoute, regarde comme c'est écrit là. Compter, peser et diviser, ton temps est compté. Tu penses que tu t'es élevé, tu penses être grand puisque tu as l'armée, puisque tu as le royaume, puisque tu as le peuple sous ta domination. Sache que le véritable roi a limité ton temps. Donc à partir d'aujourd'hui, comme on dit en français, le compte à rebours a commencé. Dieu a commencé le décompte. Et Dieu ne se trompe pas. Parfois, nous, on se trompe des secondes. Mais Dieu est parfait. Il ne se trompe pas. C'est ce que Daniel lui dit. Il dit, tu penses être lourd. Tu pèses. Parfois, dans le monde, on avait une expression, quand on était jeune, je suis toujours jeune, bien sûr, mais on avait une expression pour dire que cet homme a beaucoup d'argent. On dit, ah, il pèse lourd. pèse lourd. Et Daniel lui dit, Dieu t'a pesé. Il a pris la balance, il t'a pesé, il a vu que tu es léger. Et qu'est-ce qui se passe? Le même jour, le soir, Belshazzar est tué. Et c'est Darius qui devient roi. Bien-aimé, l'orgueil, quand l'orgueil arrive, la chute n'est pas loin. C'est juste une question de temps. C'est ça l'objectif de l'exhortation de ce matin-là. C'est juste une question de temps. Mais maintenant, dans cet intervalle de temps-là, Dieu nous laisse l'occasion de dire, bon, je capitule. Je vais être fair play. Bien-aimé, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup regarder les matchs de tennis. Parce que dans les matchs de tennis, généralement, après le match, l'affrontement qui va durer peut-être 5 heures, à la fin, on serre la main, on fait une accolade. Et vous imaginez un homme comme Federer, tu perds contre Nadal le dernier Roland-Garros à plate couture. Mais attends, c'est pas n'importe qui, c'est Federer. Mais il perd, il vient, il serre la main, il fait une accolade. En conférence de presse, il dit « Ah non, mais Rafa était sur une autre planète. Aujourd'hui, il a été monstrueux, il a été plus fort que moi. » Bien aimé, c'est ça être fair play. Pourtant, c'est Federer, c'est le plus grand joueur de tous les temps, 20 grands chelems, pour le moment. Mais il est fair play. Peut-être qu'il y a de la concurrence dans les coulisses. On va dire, bon, c'est politiquement correct. Mais en tout cas, il le dit, parce qu'il y en a qui ne le disent pas. Il y en a quand il accepte pas, il n'accepte pas. Mais lui, il accepte, il dit, bon, ah non, aujourd'hui, il a été sur terre battu, c'est le patron. Voilà. J'ai beau être Federer, mais il y a un qui est plus fort que moi. Il m'a battu aujourd'hui. Donc, rendez-vous l'année prochaine ou au prochain tournoi. Voilà, c'est ça. Mais l'orgueil va te faire. Non, 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 non. Il y a des gens qui n'aiment pas perdre. Allez, on rejoue. On fait la belle, comme disent les jeunes au Babi. Allez, on fait la belle. Allez, on recommence. Allez, parce qu'il ne veut pas rester sur un échec. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour dire, sans Dieu, nous allons courir à l'échec. Lucifer pensait être fort. Il pensait être grand. Il pensait finalement être semblable à Dieu parce que lui-même, bah, il rayonnait comme un astre, on lit là. Un astre brillant. Il brillait. Il avait la gloire. Mais il est tombé. Comme les jeunes ont chanté hier, tu es tombé. Tombé, tombé. Mais la suite c'est repens-toi. Repends-toi et commence maintenant une nouvelle vie avec Jésus-Christ. C'est ça. Pourquoi rester dans l'orgueil? L'orgueil détruit. Nous allons voir comment se manifeste l'orgueil. On a quelques points, on n'a pas tous les points. Mais comment discerner que là, comme j'ai dit tout à l'heure, bien aimé, quelquefois, on se ment à soi-même. On dit, ah oui, mais mon problème, c'est que je ne supporte pas ceci, en réalité, le problème qui se cache derrière ton problème, c'est l'orgueil. On se rappelle le fils prodigue qui dit à son père, « Mon père, donne-moi ma part de mes biens, je vais vivre ma vie. Je vais aller loin de toi parce que j'en ai marre d'avoir quelqu'un qui doit contrôler ce que je fais. » Bien sûr, on peut tout expliquer. Que cet homme voulait l'indépendance, il voulait être libre, il voulait... Mais qu'est-ce qui soutient tout ça? C'est toujours l'orgueil. Le désir d'indépendance, de se gérer tout seul, de ne pas avoir des comptes à rendre à personne, de ne dépendre de personne, de ne demander de l'aide de personne. Tout ça, bien aimé, on peut dire, non mais moi c'est mon éducation. Tu sais, moi j'ai été éduqué à ne pas solliciter les gens, parce que c'est un dérangement. Oui, il y a des cas où c'est un dérangement, le Saint-Esprit te le dira. Mais quand c'est un mode de fonctionnement, parce que Dieu nous a créés dans un monde où on est interdépendants, on dépend les uns des autres. C'est-à-dire que nous qui sommes là aujourd'hui, on a eu des parents qui se sont occupés de nous. On a été à l'école, c'est un prof qui nous a enseigné. On va parfois voir le médecin, c'est le médecin qui s'occupe de nous. Et Dieu, au travers de tout ça, il nous rappelle qu'en réalité, on a besoin de quelqu'un d'autre. On a besoin que quelqu'un exerce une autorité sur nous pour nous guider, pour nous conduire, pour nous diriger, pour nous montrer le bon chemin. On a besoin de cela. Et ce fils prodigue dit, bon, allez mon père, donne-moi, moi je veux partir. Père dit, ok, tu veux partir, vas-y, pars. Mais on nous dit dans Luc 15, 17, lorsqu'il est rentré en lui-même, il s'est dit, non, comment je peux me retrouver dans cette situation? Bien-aimé, c'est là que l'orgueil t'emmène. Combien de fois j'ai dit à, souvent aux jeunes au travail, il va, tu vois, bah, la main cassée. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai fait une crise. J'ai tapé dans le mur ou j'ai tapé dans l'arbre. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, viens, je vais te raconter une histoire. Tu sais, personne sur la terre n'a jamais tapé un arbre et l'a battu. Hein. Je lui dis, ouais, mais je sais. Hein. J'ai dit, oui, mais oui. Tu vois, pour un instant de colère, 30 secondes, tu mets un coup, la main est immobilisée pendant, je ne sais pas, un mois, je ne sais pas combien ça dure, ça dépend des fractures. J'ai dit, tu vois, parce que tu es frustré. Alors, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça produit? Parce que maintenant, c'est toi qui souffres. La nuit, c'est toi qui viens voir pour dire, tiens, j'arrive pas à dormir, j'ai trop mal. Mais est-ce que ça suffit pour que l'homme comprenne? Ah ben, ça suffit pas. Sur le coup, il va comprendre parce qu'il a mal. Mais le lendemain, il va réessayer, il va recommencer encore. Bien aimé, l'orgueil est trompeur. L'orgueil est trompeur. Alors, comment se manifeste l'orgueil? J'ai préparé quelques points et que le Seigneur nous éclaire et nous aide au travers de tout cela. Une des manifestations de l'orgueil, c'est on pense, on a l'illusion d'être supérieur aux autres. On a l'illusion d'être supérieur aux autres. On est plus que les autres. Luc 18, le publicain et le pharisien. Le pharisien est là, il se dit, oh Seigneur, je suis saint, je suis un homme bon. Vous voyez que même le fait de prétendre être spirituel ou saint, si ce n'est pas Dieu qui est là-dedans, ça produit aussi l'orgueil. Ça produit l'orgueil. Ah bah vous savez, moi, quand il y a les réunions, moi je suis là une heure avant. Oh, je ne suis pas comme tel. Et quand les gens ne vont pas te voir, ne vont pas voir ça, ben on est dans le désir de reconnaissance, on cherche la reconnaissance. Ah, vous n'avez pas vu? Vous ne voyez pas? Il y a des gens, il fait quelque chose, il veut qu'on reconnaisse. Tant qu'on ne lui a pas dit, ah, félicitations, merci. Ah, il n'est pas heureux, il n'est pas content. Si on fait les choses pour le Seigneur, tant que le Seigneur agrée cela, cela nous suffit. Cela nous suffit. Que les hommes voient ou qu'ils ne voient pas, ça a peu d'importance. Les hommes peuvent voir, les pharisiens, ils étaient applaudis. C'est ce que Jésus dit. Il dit, mais vous avez votre récompense sur la terre. Vous êtes applaudis, vous êtes glorifiés. Les gens disent, vous êtes saints, vous êtes parfaits. Mais Jésus dit, vous êtes des sépulcres blanchis. Au dehors, vous êtes propres, mais à l'intérieur, ce sont des ossements. Pourri. L'orgueil va nous faire croire qu'on est plus que les autres. Et forcément plus que les autres. Donc, je veux recevoir aussi en retour plus de gloire que les autres. Quand l'autre, on va lui dire félicitations, ah ben moi, on va me dire félicitations plus quelque chose. C'est ça l'orgueil. Le désir d'être toujours mis en avant. Ah, mais moi, je suis chantre. Mais il ne voit pas qu'avec ma voix, là, je dois me mettre sur la ligne de devant. Bien-aimé, c'est ça l'orgueil. Parfois, on va le dire avec... On dit, mais oui, mais je suis pragmatique, je suis réaliste. Mais avec Dieu, ce n'est pas parce qu'on est réaliste qu'on fonctionne avec lui, non. Au contraire, on voit tous les exemples de la Bible que Dieu a choisi les choses viles du monde pour confondre les sages. Il a choisi des enfants parfois pour diriger des adultes. Les David, les Jérémie, et d'autres encore. Il y en a beaucoup. Le petit Samuel, pour parler à Élie. Mais nous, dans notre schéma, on a les choses toutes tracées. On s'est dit, bon, comme Joseph avait des grands frères, donc c'est... Mais non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, c'est Dieu qui choisit. Et l'orgueil va te faire croire que tu es supérieur. Que tu es au-dessus. Que la gloire doit te revenir à toi. La Bible dit dans Ésaïe 42:8, ça c'est un verso à connaître, bien-aimé. Ésaïe 42:8. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai ma gloire à personne, à aucun homme, ni aux idoles. Dieu ne partagera pas sa gloire. Jamais de la vie. Jamais. Mais l'orgueil te fait penser que c'est toi la personne indispensable. À telle place, c'est toi qui dois y être. Mais si Dieu n'a pas décidé ainsi, eh ben c'est parce qu'il est Dieu. Voilà. Même si les choses, tu penses qu'elles seront mal faites au niveau humain, mais Dieu veut que ça soit mal fait, peut-être. Déjà, Dieu ne fait pas les choses mal, il fait les choses correctement. Mais je dis bien à ton entendement, ton intelligence, tu penseras que c'est mal fait, mais il préfère que les choses soient faites humainement, moyennement, mais au moins avec un cœur qui est véritablement disposé. C'est ça qui importe pour Dieu. À quoi ça sert d'avoir du talent, de faire des choses grandioses? Mais les païens aussi font des choses grandes. Ils font des choses grandes. Mais Dieu n'est pas là-dedans. C'est ça que l'orgueil produit. Je suis au-dessus. Et forcément, comme je suis au-dessus, qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas tenir compte de ce que les autres disent. Une deuxième conséquence, ou une deuxième caractéristique, pardon, de l'orgueil, c'est que on ne tient pas compte de l'avis des autres, de ce que les autres disent. On nous montre dans la parole que les apôtres, bien qu'ils avaient l'autorité reçue du Seigneur, mais ils étaient en comité, ils se disaient les choses, ils partageaient les choses. Au point où même Paul reprend ses faces, il reprend Pierre. Vous imaginez Pierre? Paul le reprend, je pense qu'aujourd'hui on aurait dit, mais qui es-tu toi? Moi j'étais avec Jésus. C'est Jésus qui m'a donné les clés de l'église. Quand l'orgueil vient, on ne va plus tenir compte de ce que les autres disent. Peut-être qu'on va faire, on va donner l'air d'écouter ce que l'autre dit. Mais en réalité, dans le cœur, on se dit, ah, un rigolo. Il pense que moi, je veux faire ce qu'il dit. Bien aimé, ça nous fait sourire, mais bien souvent dans notre fonctionnement, regardons. Le but d'aujourd'hui, c'est de dire, non, Seigneur, je renonce à l'orgueil. Je renonce à cela. Parce que l'orgueil, c'est un ennemi. C'est l'ennemi de Dieu, j'ai envie de dire. C'est l'ennemi de Dieu. La première chute est partie de là. Être comme Dieu. On a vu hier, Job 33:14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? C'est nous qui ne prenons pas garde à cela. Parce qu'on se dit, oh, mais je ne pense pas que Dieu va passer par telle personne pour me dire quelque chose. Parfois, on te reprend, tu dis, ah bon, toi? Comme les pharisiens ont dit dans Jean 9, ils disent à cet aveugle, ils disent, ah bon? Toi, tu es né tout entier dans le péché et tu viens nous enseigner. Il dit, écoutez, vous êtes des théoriciens. Moi, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle. Maintenant, je vois, c'est du concret. Et je sais une deuxième chose, c'est que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc vous, avec vos discours, restez avec vos discours. Mais ces gens-là, voyez l'attitude. Tu es né dans le péché, grandi dans le péché. Moi, je suis pharisien, circoncis le huitième jour. Avec ceci, ils avaient tous un CV. Et voilà qu'un homme comme ça qui arrive, qui vous dit, c'est Jésus, le fils de Dieu, c'est lui le prophète. Il dit, ah bon, toi tu viens nous enseigner. Bien aimé, c'est ça. Pourtant, on aurait dit à ces gens-là, je pense que c'est parfois des gens qui ont une apparence pieuse. Et il y a des chrétiens comme ça, malheureusement, qui ne tiennent plus compte de ce que les autres disent. Ayant l'attitude de dire, écoute, ce que tu m'as dit, bon, on va examiner, et puis que le Seigneur me conduise et me transforme, voilà, c'est ça. Mais il y en a qui n'écoutent pas du tout. Ce que l'autre dit a peu d'importance. Parfois, Dieu passe par les enfants. Et bien souvent même, Dieu passe par les enfants pour nous parler. Beaucoup. Mais comme on se dit dans notre schéma, attends, moi j'ai l'expérience de la vie. L'enfant ne sait pas de quoi il parle. Mais avec Dieu, ce n'est pas de savoir de quoi on parle. Quoi. Non, c'est une histoire du Saint-Esprit. C'est ça. Et on refuse de tenir compte de la vie de l'autre. Parce que moi, c'est comme ça. Parce que moi, je pense... Mais quand tu as essayé, tu as essayé, tu as échoué. Bah, remets-toi en question, en cause un petit peu. Quelqu'un va venir te dire, mais est-ce qu'on peut faire... Ah non, c'est bon. Ou alors, en cachette, tu fais ce qu'on t'a dit. Là. Vous voyez qu'il y a toujours l'orgueil là-dedans. Parce que l'orgueil voudra que... Ah ben non. Finalement, tu as fini par faire. Mais l'orgueil te dira, bah attends, tu as résisté 3 fois, 4 fois, tu n'as pas voulu faire. Maintenant, tu fais, si tu dis que tu as suivi le conseil de l'autre, finalement, et parfois l'autre va te dire, ah bah oui, tu vois, j'avais raison. Ah là, ça te blesse encore. Bien-aimé, c'est ça. L'orgueil est à l'origine et soutient le péché. L'orgueil est derrière. Et comme on a lu, il vient. Il vient, il se manifeste. Depuis le péché originel, depuis Adam et Ève qui sont tombés, eh ben nous avons été contaminés par le péché, qui se manifeste par l'orgueil. C'est cela. Mais quelqu'un qui a compris qui est le Seigneur, il sera prêt à écouter. Il sera prêt. Il dira, ah, là, le Seigneur a voulu me parler par tel événement. Le Seigneur a voulu me parler par telle situation. J'ai essayé une fois, 2 fois, 3 fois, ça n'a pas marché. Le Seigneur a voulu me parler par là. Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire? C'est ça la bonne attitude. Lorsque l'orgueil vient, troisième caractéristique, c'est que on est dans le jugement des autres. Mais un jugement, la Bible nous demande de juger les actes, de ne pas condamner les gens. Quand mon frère a mal fait, rentre dans un magasin, vole de bananes, prend des bananes, je veux lui dire, mon frère, ton acte est mauvais. Je ne dirai pas, mon frère, tu es un voleur, tu es comme ça. Non, l'acte que tu as fait là s'appelle le vol. Et devant Dieu, c'est péché. Alors repens-toi. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. L'orgueil, lui, il va toujours condamner les autres pour dire, mais c'est moi qui fais bien. Je vois les autres parents, regarde comment ils font avec leurs enfants. Mais c'est moi qui ai la bonne méthode d'éducation. Je veux me plaindre de ce que les autres font parce que j'estime que c'est moi qui ai la bonne méthode. Il faut qu'on fasse comme moi je dis. Quand l'autre fait différemment, ah bah il est responsable. Oh, il n'est pas sérieux. Quand l'autre ne manifeste peut-être pas l'attention comme toi tu aurais aimé manifester l'attention envers ta femme ou tes enfants, ah, bah, il n'aime pas. Non. Non. Bien aimé, les caractéristiques qu'on donne là, on se retrouve rapidement dedans parce que la chair est là. La chair aura tendance à toujours nous opposer les uns aux autres. La chair aura toujours tendance à vouloir nous comparer les uns aux autres. La chair est comme ça. Et bien évidemment, on ne peut pas être juge et parti en même temps. Donc tu te compares à quelqu'un, mais en même temps c'est toi qui juges. Bah forcément, ça sera à ton avantage. Comme on dit en français, bah, il y a une expression, je ne sais pas comment on dit, quand quelqu'un dit bah, je me parle tout seul, il y a la suite qui dit au moins j'aurai toujours raison. Parce que bah oui, forcément. Je ne sais pas si tout le monde comprend ce que je dis. Mais c'est une expression comme ça, dit, bah, je parle tout seul, bah, au moins je suis sûr d'avoir raison, voilà. Parce que c'est mes arguments à moi dans ma tête. Et bah, j'ai toujours raison. Et forcément, on va toujours chercher à condamner l'autre. Ah, tu as vu ce qu'il a fait, il a mal fait. Tu as vu ce qu'il a fait, il a mal fait. Bien aimé, l'objectif, c'est ce matin de nous repentir. Moi, le premier. Il y a parfois des choses qui se passent, on se dit, mais... moi je pense qu'on aurait dû faire de telle manière. Si j'étais à cette place, j'aurais fait. Mais tu n'es pas à cette place là-bas. Souffre alors de vivre la situation comme ça, mais bien sûr avec l'objectif, dans la construction, de s'améliorer pour la prochaine fois. Mais rester juste en disant, ah, il ne sait pas faire, il a mal fait. Là, c'est l'orgueil, bien-aimé. C'est l'orgueil. Tu te plains toujours des autres. Donc, toi, il n'y a pas de problème. Ou alors, toi, tu as un problème, mais tu le minimises. Vous savez, voilà pourquoi la Bible dit dans Proverbe 18-17, le premier qui plaide pour sa cause paraît comment ? Juste. Mais vient la partie adverse, on examine. Vous savez, quand quelqu'un veut te raconter une histoire, il met sa version, il te met bien. C'est à son avantage. Même s'il a mal fait, il va minimiser pour dire, oui, bon, c'est vrai, bon, j'aurais pas dû, hein, tu sais, mais je l'ai dit quand même. Mais dans sa version à lui, il y aura 20% de tort chez lui et 80% chez l'autre. Et la Bible nous dit quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait ? On attend, on écoute aussi l'autre. Parce que quand on reste sur une seule version, bah rapidement on condamne l'autre, on dit « Oh là là, je ne savais pas que l'autre était comme ça. Je ne savais pas. » Et quand on écoute l'autre, on se rend compte « Ben non, mais ce n'est pas la même version. » Et beaucoup se sont fait avoir comme ça. Beaucoup se sont fait avoir. Le Seigneur nous interpelle ce matin. Quand tu as tendance à accuser les autres, quand nous avons tendance à nous plaindre, c'est toujours les autres. C'est toujours lui. C'est toujours lui. C'est-à-dire qu'on oublie, or le Seigneur dit quoi ? Il dit, avant d'enlever la paille est toute petite chez l'autre. Il dit quoi ? Vérifie, toi dans ton œil il y a une poutre. Vous savez, une poutre, c'est pas une tige. Une poutre, c'est solide. C'est gros, c'est dur. Alors comment tu peux ne pas voir cette poutre-là ? Parce que on se persuade que non. Que moi j'ai raison. Les autres ne me comprennent toujours pas. Posons-nous la question, mais est-ce que donc comment ça se fait que j'arrive à tel endroit, il y a un problème. J'arrive à tel endroit, il y a un problème. J'arrive à tel endroit, il y a un problème. Ayons mon humilité de faire des recherches pour dire, bon, avant que j'arrive, c'était comment ? Bon, s'ils sont honnêtes, ils te disent, oh, bon, avant que tu arrives, c'était. Il y avait des problèmes, mais ça allait, c'était calme. Mais c'est vrai que quand tu es arrivé, bon, là, tu dis, ah, bon, donc c'est peut-être le problème coïncide avec mon arrivée. On se repent, bien-aimé. C'est ça que le Seigneur attend de nous. C'est ça. C'est ça. Mais l'orgueil nous fait croire que c'est l'autre le fautif. Moi, j'ai raison. On ne me comprend pas. Les autres sont contre moi, finalement. Parce que, comme je m'explique et que les autres semblent ne pas prendre position pour moi, alors ils sont aussi contre moi. Donc, finalement, je suis seul. Seul contre tous. Et là, l'orgueil te dit encore, mais finalement, t'as vu, c'est injuste, c'est l'injustice. Tout le monde est contre toi. Bien-aimé, c'est comme ça que... Mais c'est tellement subtil, tellement fin, tellement petit. Mais Dieu qui est bon nous révèle ces choses pour qu'on se remette en question, on se dise, ah oui, c'est vrai. Seigneur, pardonne-moi d'avoir eu ce sentiment. Il y a des périodes qui passent comme ça où on est à fleur de peau. Tout nous irrite. Tout nous énerve. Tout te met hors de toi. C'est l'orgueil aussi. Tu vas dire, mais non, mais c'est pas normal. Mais regarde, ben non. Ah ben oui, mais c'est aussi l'orgueil. Parce qu'en se plaignant des autres, finalement, tu vas finir par te plaindre aussi de Dieu parce que Dieu fait mal. Parce que c'est Dieu qui est le maître de tout. Donc Dieu ne sait pas faire les choses. C'est ça le piège. C'est ça le piège. Quand ça arrive, remettons-nous en question. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Pourquoi en ce moment, je deviens comme ça? Pourquoi je change? Je n'avais pas cette position-là hier. Mais pourquoi aujourd'hui, j'en arrive là? Bien-aimé, c'est ce qu'on a lu. Quand vient l'orgueil, c'est la ruine, c'est l'ignominie. Mais c'est à petit feu. C'est comme un exemple qu'on nous a donné, une grenouille dans la casserole. Sur le feu, le feu ne prend pas tout de suite. La chaleur, je veux dire. L'eau, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, jusqu'à un moment, la grenouille est surprise, l'eau est chaude. Pourtant, au début, il se dit, j'ai encore le temps, je peux sauter. Mais j'ai encore le temps, mais tu seras surpris. Tu as fait quelque chose. Et tu dis, mais comment je suis arrivé à ce point-là? Mais c'est ça, bien-aimé. Alors remettons-nous en question à ce moment-là. Disons, c'est moi qui ai un problème. Tu as l'organisation de quelque chose. Forcément, l'organisation rime avec, parfois, j'aime pas beaucoup ce mot-là, le stress, mais tout ce qui est lié à tout ça. Mais plutôt que de commencer à pleurer sur les autres, te plaindre sur les autres, dis, qu'est-ce que moi, je n'ai pas anticipé. Qu'est-ce que le Seigneur a voulu m'enseigner, moi, au lieu de tout le temps accuser les autres parce que ça change quoi? Ça ne change rien. Qu'est-ce que j'aurais pu bien faire? C'est cela. Bien-aimé, quand l'orgueil vient, on a du mal à reconnaître ses torts. On a du mal à reconnaître ses torts. Ou alors, on va les reconnaître partiellement. Je m'explique. C'est-à-dire qu'en fonction de celui qui est en face de toi, tu sais que lui, c'est une autorité. Tu vas reconnaître, parce que c'est le pasteur ou l'ancien. Mais devant un frère, devant une sœur, tu vas tenir tête. Bien-aimé, ce sont des réalités. Devant le pasteur, tu dis, là, il va me coincer. Mais ça, c'est la religion. Parce que Dieu, lui, sait tout. Dieu, lui, voit tout. Il voit tout. Suivons l'exemple bien-aimé de David. Le Seigneur dit, c'est l'homme selon son cœur. Lorsque Nathan vient voir David, Nathan lui raconte une histoire. Pendant que Nathan lui parle, je pense que déjà quand Nathan est entré dans la maison de David, David s'est dit, ça y est. Je suis dévoilé. Mais d'un côté, il se réjouit parce que ça sera la délivrance. Pourquoi la délivrance? Parce que maintenant que Dieu va dévoiler son péché, il pourrait être libre maintenant. Parce que quand tu es dans le péché, tu es triste, tu es malheureux, tu fais semblant, mais c'est devant les humains. Mais au fond de toi, tu sais que tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien. Mais l'orgueil va te dire, mais prie seulement. Jeûne, Dieu va... Non. Tu as beau jeûner, mais si tu n'es pas dans la disposition de demander pardon, à quoi ça sert? C'est une perte de temps. Lorsque l'orgueil vient, on a du mal à reconnaître ses torts. On est toujours à dire mais. Oui, mais. Oui, mais aussi, comme les jeunes disent. Mais c'est pas juste. Mais oui, mais. Mais oui, mais. Mais oui, mais. Non, mais. Mais reconnais. Reconnais. Reconnais tes torts. On est toujours en train de donner des explications. De vouloir convaincre, mais convaincre qui? Tu vas convaincre un homme, mais est-ce que tu peux convaincre Dieu? Tu vas convaincre un homme, est-ce que tu peux convaincre même ta propre conscience? Non. Mais l'orgueil, lui, va te faire croire que c'est toi qui as raison, c'est comme ça. Bien-aimé, c'est pas bon. Sachant reconnaître. Il y en a même la main dans le sac, flagrant délit. Mais il arrive à tenir tête. Parfois même il pleure. Bien-aimé, c'est ça l'orgueil. On va dire, mais il est trop têtu. Mais il est trop impoli. Oui, l'impolitesse cache l'orgueil derrière. Parce que la personne est autosuffisante, elle se suffit à elle-même. C'est pour ça qu'on a dit en introduction, l'orgueil est un péché, mais en même temps, c'est un peu comme en mathématiques, hein, le dénominateur commun de beaucoup de péchés, de tous les péchés même, tous, sachant que le plus grand, c'est être comme Dieu. Décider soi-même ce que je veux, c'est moi qui décide, c'est comme ça. C'est ma vie, je fais ce que je veux. C'est ma vie, je fais ce que je veux, c'est moi qui décide. Et quand tout le monde n'est pas content, eh ben, comme certains disent, eh ben, je me donne la mort. Le suicide, c'est quoi qui est derrière ça? C'est l'orgueil. C'est de l'orgueil. C'est tout ça, c'est l'orgueil. Eh bien, puisque je suis incompris, mal compris, eh bien, c'est comme un jeune nous dit au travail, ben, bien évidemment, quand on nous dit ça, nous, on prend les choses au sérieux. Il dit, vous allez voir. Sans être grossier, ou il dit, ben, je vais y passer, mettre fin à ma vie, vous allez voir. Vous serez content après. Je reprends, j'ai dit, mais attends, tu vois ce que tu viens de dire, c'est pas bon ce que tu viens de dire. Est-ce que tu penses à tes parents? Oh oui, mais ils ne pensent pas à moi, personne ne pense à moi. De toutes les façons, c'est tout ce qui m'attend, moi. C'est tout ce qui compte pour moi. Et finalement, quand on discute, on se rend compte que ce qui amène à ces propos-là, c'est tout simplement un sentiment de rejet que ce jeune subit, un manque d'amour qu'il subit. Et ça fait que quelqu'un devient délinquant, bagarreur, et on va chercher à comprendre, mais pourquoi on va mettre toutes sortes de lois. C'est pour ça que, bien aimé, malgré la loi, l'homme, pourquoi il continue à pécher? Il y a des lois qui sont là. On te dit, si tu fais ça, on t'attrape, t'es puni. Mais pourquoi les gens continuent? Parce qu'il y a quelque chose en l'homme qui n'est pas physique. C'est l'orgueil au fond de lui. C'est l'orgueil au fond de lui. Bien-aimés, renonçons à cela. Sachant reconnaître lorsque nous avons tort. C'est pas parce que tu es le mari que tout ce que tu dis, c'est vrai et tu as raison. Ce n'est pas aussi parce que tu es la femme que tout ce que tu dis doit être ainsi. Non. Et même si c'était ainsi, bah reconnais alors de souffrir de que tu ne sois pas suivi, reconnais cela. Passe pour avoir tort. Et si tu as raison, le Seigneur te justifiera. Mais l'orgueil nous dit non. Ce n'est pas toi. L'orgueil n'aime pas. Quand l'orgueil se manifeste, on a du mal à accepter qu'on nous reprenne. On a du mal à accepter qu'on nous corrige. Parce que finalement, comment on se suffit à soi-même? Bien aimé, le thème, c'est l'orgueil, son fonctionnement. C'est-à-dire que quand l'orgueil vient, il te dit, tu es complet. Tu te suffis à toi-même. Alors, comme tu te suffis à toi-même, qu'est-ce que l'autre va m'apprendre, va m'apporter? Parce que moi, j'ai déjà tout. C'est ainsi qu'on voit même dans les milieux chrétiens. Il y a des chrétiens qui vont dire, ils vont prendre des versets bibliques pour dire, ah ben, on n'a pas besoin des pasteurs. On n'a pas besoin de 5 ministères, parce que tous, on a reçu l'Esprit de Dieu. Parce que tu te suffis à toi-même. On ne peut plus te corriger. Un frère va venir pour dire, tiens, mes frères, tu as dit ça la dernière fois. Mais regarde, la référence que tu as donnée n'était pas bonne. Tu as donné, mais oui, bah, dis, ah oui, c'est vrai, mon frère, excuse-moi, je me suis trompé. Voilà. Je veux dire, mais comment, pour qui tu te prends? Mais toi, tu ne sais pas. Mais non. Non. Quand vient l'orgueil, on a du mal à être repris. Mais comme Dieu est bon, il nous mettra toujours en situation où quelqu'un va venir te corriger. Maintenant, c'est libre à nous de refuser ou d'accepter malheureusement. Mais c'est ça. Il mettra toujours quelqu'un pour venir pour te corriger. Et parfois même, celui qui te corrige n'est même pas au niveau où tu es. C'est ça encore qui te brise. Vous imaginez, tu joues la musique, quelqu'un qui me dit, ah, mais il y a une fausse note là. Bon, la réaction normale, c'est quoi? L'orgueil. Bon, tiens, fais. Non, mais moi, je ne sais pas faire. Mais je sais seulement que j'ai entendu, c'est pas, ah, ça fait mal. Parce que quand tu lui dis, bon, tiens, fais, tu l'attends maintenant au tournant pour regarder, pour voir comment il fait. Maintenant, lui, il te dit, non, moi, je ne sais pas faire. Mais j'ai entendu, bien-aimé, c'est ça. Nous disons ça pour nous dire, attention, bien-aimé, attention, nous ne sommes pas arrivés. Jésus est arrivé et Christ en nous, nous allons arriver. Mais nous allons arriver comment ? En nous faisant petit, c'est ce qu'il est écrit dans Philippiens 2, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Voilà, il s'est fait petit. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend. Il y a des gens, quand tu l'entends parler, c'est comme si il a été à l'origine de tout lui-même. C'est lui son propre prof. Mais non. Mais non. C'est lui, surtout aujourd'hui avec Internet, il suffit d'avoir un smartphone, un peu de lumière, tu te mets connexion, même par Wi-Fi, tu te connectes, tu fais ta vidéo, tu es devenu aussi prof. Quelqu'un qui est de l'orgueil, il refuse qu'on le corrige. Il refuse. Il va faire quelque chose de compliqué. Tu viens de me dire, mais pourquoi tu ne fais pas simple ? Ah, parce qu'il se dit simple, c'est comme tout le monde. Moi, je vais faire quelque chose qui... Je ne dis pas que c'est mauvais d'améliorer. Non, pas du tout. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais on verra dans la réaction. Comment réagis-tu ? Comment réagis-tu ? Bien-aimé, le monde, la vie nous enseigne. Vous vous rendez compte, un homme comme Messi, Cristiano Ronaldo, il a un entraîneur. On pourrait dire, mais le type, il sait tout faire. Même si, peut-être que l'entraîneur, nous, on ne sait pas. Peut-être que l'entraîneur laisse des passes droits, mais c'est l'entraîneur qui a quand même la main. C'est lui qui décide. Il dit, bon, comme on a un autre match, allez, tu t'arrêtes là. Tu sors, on va te préserver. Ou alors, quand tu as le ballon, tu joues comme ça, tu joues. C'est l'entraîneur. L'entraîneur est là. Même si tu as beau être tel ou tel, tu as quelqu'un qui est là pour te corriger. Pour dire, non, t'as mal fait. C'est pas comme ça. On fait comme ça. On te donne un exercice, tu fais comme... On dit non, mais la procédure, elle est là. Ah oui, mais moi, je fais comme ça. Après tout, le résultat est le même. Mais le problème, ce n'est pas le résultat. Moi, je me rappelle quand on était au lycée. Parfois, une équation, vous savez, les équations, il y a plusieurs étapes. Hein. Tu dois démontrer que X plus Y égale ceci. Ensuite, deuxième ligne, tu montres cela. Troisième ligne, tu montres. Parfois, tu regardes juste une ligne, tu sautes deux lignes, trois lignes. Tu mets le résultat. Mais quand le prof lui va corriger, il sait que tu as triché. Parce qu'il va te demander où est la logique. As-tu suivi la procédure ? C'est moi le prof. Toi, tu vas dire, oui, mais monsieur, j'ai compris, mais j'ai pris une autre méthode. Il va te dire, ben non, c'est pas ça. C'est moi qui donne les méthodes, c'est moi qui fixe les règles. Tu ne peux pas inventer ta règle à toi. Et tu tiens tête, bah. Il te met zéro, même peut-être qu'elle allait te mettre même la moitié pour dire, bon, même s'il n'a pas suivi ma règle, au moins, il a travaillé. Mais comme tu tiens tête, ben c'est zéro. Il y a des gens, tu te fais avoir par la police, excès de vitesse. Au lieu de faire profil bas, tu te mets à crier. Il y a des émissions qui passent sur la 11, sur la 12, je ne sais pas comment. Tu te mets à crier. Mais finalement, qui est gagnant ? Parce que la police va dire, ah, ok, bon, c'est ce qu'on voulait, outrage à argent, c'est bon. Allez, tu viens avec nous, garde à vue. Ta belle voiture que tu avais, tout le permis, déjà la voiture saisie, permis bloqué. Qui a gagné maintenant à ce moment-là ? Il y a des gens qui n'aiment pas être repris. Et on arrive à un autre point encore. Quand vient l'orgueil, généralement, on aura du mal avec l'autorité, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit, on aura du mal avec l'autorité. On aura toujours un problème avec l'autorité. Parce qu'on estime que ce que fait l'autorité, moi aussi je peux le faire. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais oui, c'est vrai, il n'y a rien d'extraordinaire. Tout ce qu'on peut faire, c'est par la grâce de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit et c'est ce que nous allons voir en conclusion. Tout ce qu'on peut faire, c'est la grâce de Dieu. Mais le mensonge, c'est de se dire, bah, puisque je peux faire la même chose et même plus, donc finalement, tu n'as rien à me dire. Même si tu as autorité. Bien-aimé, ça ne se passe pas comme ça, bien-aimé. Ça ne se passe pas comme ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, même les grands joueurs, parfois, ils vont avoir un entraîneur qui n'a même pas joué au foot. il va avoir un entraîneur qui n'a pas joué au foot. Mais c'est lui qui lui dit comment courir. C'est lui qui lui dit, bah, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Parce que c'est l'entraîneur, c'est l'autorité. Et la Bible nous dit dans Romains 13, il y a beaucoup de passages, mais on cite les points pour que chacun de nous nous reconnaissions dans cela. Et comprenions que, ah, puisque j'ai tendance à manifester ça, c'est qu'en moi, il y a de l'orgueil. Seigneur, transforme-moi, pardonne-moi, change-moi, je refuse cela. Quand l'orgueil vient, on aura du mal avec l'autorité. On va contester l'autorité. On va prouver qu'on peut faire la même chose. C'est ce qu'on a lu. Ézéchiel 28, on ne l'a pas lu, mais Ésaïe 14. C'est ce qui s'est passé avec Lucifer. Il s'est dit, mais Dieu est adoré, mais pourquoi lui seul? Et pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Moi aussi, je le mérite. Mais moi aussi. Bien-aimé, c'est ça l'orgueil. Romains 13 nous dit de nous soumettre aux autorités. Si Dieu a mis quelqu'un devant toi, soumets-toi à lui. Même si tu sembles savoir plus que lui, même si toi, l'enfant, tu parles français mieux que tes parents, mais Dieu ne s'est pas trompé. S'il a mis ces personnes-là en tant que parents, c'est parce qu'il sait. Et parfois, on se trompe. On se dit, mais je connais plus que lui. Je maîtrise les choses mieux que lui. Et alors, ça m'autorise à ne pas considérer, à manquer de respect. Parce que ce qu'il fait, moi aussi, je peux le faire. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est Dieu qui établit. Et il nous demande de respecter son ordre. Et bien souvent, celui qui est dans l'orgueil aura du mal. On va dire, nous allons faire comme ci, comme ça. Lui, il va faire à sa sauce. Mais avant de faire à ta sauce, réfère-toi à ceux qui sont là pour dire, bon, comment je peux faire des choses. Bien-aimé, c'est comme ça. Paul, lorsque le Seigneur le rencontre, Saul de Tarse autrefois, il aurait pu s'arrêter à dire, oh, moi j'ai rencontré le Seigneur. J'ai eu une vision, le Seigneur m'est apparu, il m'a parlé, il m'a dit que je vais souffrir pour son nom, je vais annoncer. Mais il ne s'est pas limité à cela. Il savait qu'au-dessus de lui, avant lui, il y a des gens qui ont fait le travail. Il est allé voir ces gens-là. Il est allé voir ces gens. Bien-aimé, ça ne nous diminue pas. C'est l'orgueil qui va te faire croire. Mais non, tu n'as pas besoin d'eux. Non, c'est faux. C'est faux. Dieu a établi les choses de cette manière-là. Humilions-nous. Si c'est le travail qu'on veut faire, alors disons, bon, comment je peux faire pour travailler? Comment je peux faire pour apporter mon aide? En quoi je peux vous être utile? Et non, on se dit, non, mais moi aussi j'ai la même chose, je peux aussi décider. Je peux aussi faire. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, bien-aimé. Acceptons cela. Nous allons lire, pour finir, nous lisons 1 Corinthiens 4 et ensuite 2 Corinthiens 12. Corinthiens 4, à partir du verset 6. 1 Corinthiens 4, verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses, une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, bien-aimé, dans nos rapports avec les autres, ne manifestons pas l'orgueil comme si on était exceptionnel. Parce que comme on l'a dit, un des pièges de l'orgueil, c'est de dire que tu as quelque chose d'extraordinaire. Parce que c'est ça le combat de l'homme, c'est quoi? C'est d'être lui-même Dieu. Donc exclusif dans sa façon de faire les choses. Il est différent. Ce qui fait qu'il y a des gens, quand ils mettent une chemise, ils voient que l'autre a mis ça, ben ça c'est quand même poussé. Hein. Et des chrétiens parfois même. Ils mettent une chemise, ils voient que l'autre a mis la même, ils se disent « Ah non, bon, je ne mets plus la chemise parce qu'on est deux. » On a toujours un désir d'exclusivité. Je suis exclusif. Je suis différent. Je suis unique. C'est ça qui produit l'orgueil. Et l'apôtre ici nous dit, mais pourquoi tu te glorifies comme si ce que tu as là, c'est toi-même qui l'avais produit. Mais non, c'est Dieu qui a mis ça en toi, c'est Dieu qui t'a donné ça. Alors puisque c'est Dieu qui t'a donné ça, pourquoi tu essayes d'impressionner les autres pour faire croire que c'est toi qui a produit cela? Non. Non. Tout ce que nous avons, c'est un don de Dieu. Et en commençant par le plus grand don, le premier, c'est bien sûr le salut en Jésus-Christ. Mais pour tous les humains sur la terre, il y a un don que Dieu nous a fait. Lequel? Qui peut nous dire? Pour tous les humains qui sont vivants sur la terre. La vie? Non, pas la vie éternelle, la vie. Le souffle de vie, la respiration. C'est un don de Dieu. Et la Bible en parle dans 1 Jean 2, 15 à 16. La Bible parle de l'orgueil de la vie. Donc la vie est un don de Dieu. Personne ne s'est concentré pour dire, bon, je vais naître tel jour. La vie, c'est le don de Dieu. Alors quand on réalise que ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné, on entre dans le bon processus maintenant pour dire, non Seigneur, mais pourquoi je vais chercher à faire croire que ça vient de moi? Non, c'est Dieu qui me l'a donné. C'est un don de Dieu, la vie que j'ai, le souffle que j'ai. L'apôtre Paul dira quelque part, il dit, ce n'est pas que nous soyons capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Toute capacité vient de Dieu. Tout ce qu'on peut faire, c'est Dieu qui produit cela en nous. Alors pourquoi chercher à être exclusif? À penser que je suis grand. Nous lisons 2 Corinthiens 12. On peut commencer à partir du verset 5. 2 Corinthiens 12, verset 5. Nous allons bientôt finir. Donc c'est l'apôtre Paul qui parle. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas. Sinon, de mes infirmités. Si vous voulez me glorifier, je ne serai pas un insensé, car je dirai la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois point enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose en moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car si je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. Il nous dit que Dieu a mis des révélations excellentes en moi. Excellentes. Mais il dit en même temps, Dieu a mis quelque chose en moi. Une écharde, on ne sait pas exactement ce que c'est. Mais il dit, c'est quoi la raison? Pourquoi Dieu a mis ça? Pour éviter que je sois enflé d'orgueil. Et il dit même, c'est un ange de Satan qui vient me souffléter. Pour que je ne sois enflé. Bien aimé, c'est l'apôtre Paul qui parle, attention. Parce qu'on peut dire, ah non, mais lui, il est arrivé. Lui, il a atteint un niveau. Non, bien aimé. Il y a un verset qui nous dit le péché qui nous enveloppe facilement, c'est ça l'orgueil. Quand ça commence, c'est ça qui va t'amener à mentir, c'est ça qui va t'amener à faire ceci, à penser que tu es le grand, tu es fort, tu es ceci, tu es exceptionnel, c'est ça. Il dit Dieu, voyant l'avenir, il s'est dit non, il faut que je mette quelque chose dans cet homme qui va le calmer. On ne sait pas exactement ce que c'est. Est-ce que c'est une infirmité? Est-ce que ce sont des problèmes de yeux? Est-ce que Dieu n'a pas voulu qu'on sache, mais il a voulu qu'on sache au moins que il a voulu calmer Paul en disant attention, ne sois pas enflé d'orgueil. Attention. Il dit j'ai prié autant qu'un homme puisse prier. Comme il fallait que je prie, j'ai prié. Le Seigneur me dit, ma grâce te suffit. Bien-aimé, comment vaincre l'orgueil? C'est premièrement comprendre, comme on a lu dans le premier passage, que en réalité, tout est un don de Dieu. Dieu est la source de tout. Dieu est la source de tout. Il y a un verset que j'aime beaucoup dans Deutéronome 8. Dieu parle à Israël, Deutéronome 13. Il dit, Israël, souviens-toi de ton Dieu. Lorsque tu deviendras riche, que ton cœur ne s'enfle. C'est ça que Dieu dit à Israël. Il dit, bientôt tu vas rentrer dans la terre promise. Bientôt, tu es à la porte. Mais écoute, que ton cœur ne s'enfle point. Lorsque tu verras les richesses, lorsque tu verras tous les biens qui seront là, que j'ai préparés pour toi, fais attention que ton cœur ne s'enfle. Dieu est en train de dire à Israël, attention, tout ce qui est là, c'est moi qui l'ai donné. Donc que ce ne soit pas pour toi, que ce ne soit pas pour nous, une occasion de nous enorgueillir, dire, ah, nous sommes arrivés, on a réussi. Il dit, attention. Et là, l'apôtre Paul nous dit que Dieu a voulu le maintenir, tout simplement dans la grâce. Qu'il comprenne, lorsqu'il voit son problème en lui, qu'il comprenne que c'est tout simplement, si on peut servir Dieu, c'est pas parce qu'on est parfait. C'est parce que Dieu nous fait grâce. Voilà. Le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. C'est cela. Donc tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, il est écrit que Dieu a préparé des œuvres, tout ce qu'on fait aujourd'hui, ce sont des choses en même temps qu'il nous a donné le salut. Il y a un pack, un kit complet avec les œuvres à pratiquer. Tout est déjà prévu à l'avance. Le chemin est déjà tracé. Quand tu acceptes Jésus, tu rentres dans ce chemin-là pleinement maintenant. Tout est déjà prêt. C'est cela. Alors réalisons la grâce que Dieu nous donne, que Dieu nous fait tous les jours. Et quand on réalise cette grâce-là, on n'a rien à revendiquer pour dire moi, ceci, moi, cela. Non, non. La chair va te dire, mais non, c'est impardonnable ce qu'on t'a fait. Tu dis, mais comment donc? Mais moi, j'ai été pardonné. Matthieu 6, 14 dit que si nous refusons de pardonner, Dieu non plus ne nous pardonne pas. Alors les choses qui ne vont pas dans nos vies, bien-aimés, prenons-le comme une force pour venir au Seigneur, pour dire, Seigneur, voilà ce qui ne va pas. Seigneur, aide-moi. Peut-être que j'ai pensé, j'ai mis la barre trop haut. Je pensais être arrivé à un certain niveau. Il y a des gens, ils passent un diplôme, ils disent, c'est une formalité. Moi, c'est 18 sur 20. Tu arrives 11 sur 20. Je veux voir mes copies. Mais eux aussi peuvent décider, non, on ne te montre pas la copie. Tu fais quoi? Donc si tu as ton diplôme, dis-toi que c'est la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont été intelligents, mais le jour de l'examen, ils sont tombés malades. Le jour du rattrapage, ils sont tombés malades. Alors quand on réalise ça, on se dit, ah Seigneur, c'est ta grâce. Combien de joueurs n'avons-nous pas connus? Très très bon, parfois en espoir, très fort. Et la carrière s'arrête comme ça d'un coup, d'un seul. Il n'y a plus rien. Parce qu'il y a la volonté de Dieu qui est là aussi. Parce que Dieu décide, et à contrario, il y en a aussi, qui ne sont pas bons, mais ils arrivent à faire une carrière et à avoir des grands titres. Alors quand tu vas essayer de comparer pour dire, mais c'est pas, ah mais oui, oui, mais il y a des choses qui dépassent le côté humain. C'est Dieu qui est Dieu. Voilà. Comment nous aider face à l'orgueil? Réalisons que tout vient de Dieu. Dieu est la source, comme l'apôtre Paul a dit. Tout ce que nous avons, c'est Dieu. En commençant par la respiration. Réaliser que Dieu permettra aussi des situations dans nos vies pour nous humilier. Ça peut être des épreuves. Ça peut être des situations par lesquelles on passe pour nous dire, écoute, tu pensais être arrivé à tel niveau, mais là je t'humilie. Pour que tu comprennes que seul, moi je dois être élevé. Dieu va le permettre. Comment vaincre l'orgueil? C'est Luc 14. Le Seigneur nous dit, lorsque tu arrives dans une fête, que faire? Choisis la première place, là où tu seras vu, là où tu seras bien servi, là où tout le monde va t'applaudir. Et souvent, à la première place, ceux qui arrivent, ils arrivent après tout le monde. Hein. Vous savez, c'est comme dans les sommets où il y a les chefs de l'État, il y a tous les ministres qui sont là, le président arrive après. Il arrive en dernier, quand il arrive, tout le monde se lève. Jésus dit ça, il dit non. Il dit, toi, quand tu arrives à une fête, mets-toi à la dernière place. De toutes les façons, à la dernière place. Qui va venir te voir pour te mettre encore plus bas? Personne. Qui va venir te voir pour te dire, non, mais non, tu es déjà à la dernière place. Mais quand tu es à la première place, quand on vient te dire, ah non, excuse-moi, c'est pas ta place. Viens, là, le protocole t'attend, il te dit, allez, lève-toi, viens. Là, pour te lever, là, tu dois peser même 300 kilos pour te lever, là. Tu réfléchis, tu dis, mais je passe par où? Et la honte. Alors, acceptons, bien-aimés, d'être à la dernière place. Être à la dernière place, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme tout ce qu'on a cité là, c'est être humble. C'est accepter d'être repris. C'est accepter qu'on nous corrige. C'est accepter que quelqu'un vienne te voir pour dire, mon frère, hein, je vois que tu es un peu trop fier. Ça fait mal, hein? Ou alors on te dit carrément le mot, bon, tu as beaucoup d'orgueil. Mais être à la dernière place, c'est accepter de dire, bon, on va prier ensemble pour que tu m'aides, pour que le Seigneur me change. C'est ça, être à la dernière place. C'est laisser la place de Dieu. La première place, c'est Dieu. Et nous sommes derrière. C'est cela. Comme on a dit vendredi, il y a une situation, je l'arrange, je n'attends pas. Parce qu'en attendant, l'orgueil s'installe. L'orgueil te dit, regarde, il n'y a rien qui change. Regarde, tu as fait tout ce qu'il faut. Regarde, tu as essayé. Regarde, regarde, regarde. Et là, tu t'enfonces. Tu prends une décision. Comme on a lu, quand vient l'orgueil, vient l'ignominie. Vient le mépris, vient la folie en quelque sorte. Vient la bêtise. Acceptons d'être à la dernière place. Acceptons cela. Et comme Philippiens 2 nous dit, ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui est Dieu. Lui qui a la gloire. Il a accepté de s'en dépouiller. Il est venu sur la terre comme un serviteur. Il a accepté de subir la moquerie. Il a accepté de subir la contradiction, bien-aimé. Tu parles à tes disciples, il parle à Pierre. Pierre lui dit non. Que Dieu te préserve de cela, bien-aimé. Qui ici, là, peut contredire le chef de l'État en conseil de ministre? Quel ministre va dire non, non, président, non? Qui va contredire le président de la République? Parfois, même les conseillers, quand ils veulent dire quelque chose, ils ne le disent pas de vive voix. Ils font une note. Ils font une note, pourtant ils se voient tous les jours. Mais il fait une note, ils ont des mails intra ou alors de. Ou un texto, il envoie. Mais Jésus, Pierre l'a contredit. Jésus a accepté cela. Il a répondu à Pierre, il a dit, non, là c'est pas toi, c'est le diable qui est derrière, c'est Satan qui est derrière. On vient laver ses pieds, les disciples sont offusqués. Il dit, oui, laissez ces gens-là, laissez-les. Jésus a accepté. Suivons l'exemple du Seigneur bien-aimé. Ne soyons pas dans une attitude d'orgueil. Ça détruit. C'est le diable qui se réjouit de cela. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide ce matin, aujourd'hui, pour que nous puissions revoir nos motivations, nos cœurs. Comme on l'a dit, lorsque l'orgueil vient, il ne prévient pas. Lorsque l'orgueil vient, on ne sait pas toujours. On pense que c'est légitime que je m'énerve. C'est légitime. Moi, je ne laisse rien passer, puisque c'est moi. Mais lorsqu'on agit comme ça, c'est que finalement, on s'est fait soi-même Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu résiste. Voilà pourquoi il y a des situations qui traînent. Puisque nous, on résiste, mais Dieu aussi résiste à l'orgueil qu'il y a en nous. Seigneur, merci pour ta parole de ce matin. Merci, Seigneur, de nous rappeler que, Seigneur, tu fais grâce aux humbles, Seigneur. Nous bénissons ton nom pour ta parole, Seigneur. Moi, le premier, Seigneur, je suis concerné par cela et nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Seigneur, délivre-nous de l'orgueil, Seigneur. Avec toutes ces manifestations, Seigneur, combien de fois nous avons condamné les autres en pensant que nous faisions bien parce que les autres ont mal fait. Combien de fois nous avons mal pris le fait que quelqu'un nous reprenne, même sur ce qui est vrai. Nous l'avons mal pris, nous n'avons pas accepté cela. Combien de fois, Seigneur, avons-nous pensé que nous étions au-dessus des autres? Combien de fois n'avons-nous pas cherché la reconnaissance des autres, Seigneur? Seigneur, nous te demandons pardon pour tout cela, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Quelquefois, dans nos maisons, nous avons pris des positions tout simplement parce que nous voulons garder notre fierté. Parfois, dans les couples, Seigneur, nous prenons des décisions, Seigneur, tout simplement parce que nous estimons que c'est nous qui avons raison, Seigneur. Parfois avec nos enfants, Seigneur. Nous pensons, Seigneur, ne rien tirer d'eux. Nous méprisons parfois les reproches que tu peux nous faire au travers des enfants, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Touche nos cœurs, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas être grands, Seigneur, devant toi. Peut-être que nous avons cherché à être grands devant les hommes, mais beaucoup de grands aujourd'hui sont dans le tombeau. Ce roi Belshazzar qui pensait être grand, en un seul jour, il a perdu son royaume, il a perdu même la vie. Et tous ces exemples nous rappellent, Seigneur, que toi seul es grand, Seigneur. Pardonne-nous pour notre entêtement, Seigneur. Seigneur, l'orgueil produit la rébellion, on devient rebelle. Rebelle à ta parole. On fait semblant devant les hommes. Être présent à l'assemblée, t'adorer, te glorifier. Mais dans notre cœur, nous savons que nous ne sommes pas en accord. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, pour tout cela ce matin, Seigneur. Que ton nom soit béni au nom de Jésus.